Est-ce que je dois régler le micro ou c'est bon? Ça va, vous m'entendez comme ça? Ok, parfait. Alors, Jésus nous dit de nous tenir prêts à son retour ou à notre mort. Comment être prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que vous êtes prêts? C'est une question qui m'a beaucoup travaillée et évidemment, tout mon sujet était prêt bien avant les événements récents. Même bien avant le Covid, quand j'ai réfléchi, le Covid nous est tombé dessus. Et là, on a eu tout d'un coup tous très peur de la mort. Mais voilà, c'est une vieille réflexion que je vous partage là. Donc la vie est courte, la vie est parfois trop courte, ou plutôt sa fin est imprévisible. On en a des rappels réguliers tout autour de nous. Des accidents, des cancers, des hémorragies ou n'importe quoi. Enfin, on peut mourir de tellement de choses. Et même quand on a un âge respectable, on va dire, par exemple, ma mamie, elle avait 92 ans quand elle est décédée là récemment. Donc 92 ans, c'est bien. Mais est-ce qu'on pouvait s'y attendre que du jour au lendemain, elle allait partir comme ça? Non, même là, c'était imprévisible. Donc il y a ce stress, il y a ce « on ne sait pas ». On ne sait pas quand on va partir, quand nos proches vont partir, on ne sait pas. Il y a aussi le fait qu'une fois qu'on est sauvé, il faut porter du fruit. Il faut faire quelque chose de bien de notre vie. Donc si Jésus revenait là, aujourd'hui, est-ce que ma valise serait prête? Qu'est-ce que j'aurais à lui présenter? Est-ce que je pourrais dire « ok, c'est bon, on y va ». Ou est-ce que je regarderais en arrière en disant « aïe, aïe, aïe ». Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va un petit peu regarder en arrière. Il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que de fête, car c'est là qu'est la fin de tout homme et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est encore en vie. Alors, on va parler d'un sujet très difficile. La perspective est belle. La perspective, c'est la vie après la mort. C'est le royaume de Dieu. Mais on va se concentrer sur notre vie avant la mort pour vérifier qu'on est bien serein quant à l'idée de partir sans regret et sans laisser nos proches avec des regrets. Alors on va voir deux grandes idées, deux grandes parties ce matin par rapport à ça, mais c'est une vision des choses parmi d'autres, il y aurait mille autres choses à dire. Ah, attends, il faut que je l'allume. Voilà. Première chose importante, je pense, c'est d'être en paix. C'est le premier critère qui détermine si on est prêt à rencontrer Dieu et à quitter ce monde. Alors, en paix avec qui? Avec Dieu, évidemment, c'est la première étape incontournable. La Bible parle d'une porte étroite pour être réconcilié avec Dieu. Il nous est dit « entrez par la porte étroite ». Parce que d'autres portes, d'autres philosophies et d'autres choses dans ce monde sont faciles et sont assez larges et sont facilement accessibles et très visibles. Mais la vie avec Dieu, c'est un peu plus restreint, donc il faut faire un effort pour trouver la bonne porte et pour y passer. Est-ce que tu es passé par cette porte? Est-ce que tu as un pied dedans et un pied encore un peu dehors? Est-ce que tu es sur le pas de la porte, mais tu n'as pas vraiment poussé la porte? Est-ce que tu es pleinement entré dans le royaume de Dieu, finalement, qui a déjà commencé, qui est déjà venu parmi nous? Jésus est cette porte d'accès à Dieu. Et c'est Jésus le chemin qui nous mène jusqu'à Dieu. Car Dieu nous accepte quand on bénéficie du sacrifice de Jésus pour nous, quand on en est bénéficiaire et qu'on peut se présenter à Dieu en disant « Jésus est mort pour moi, il est mon sauveur ». On a un verset qui parle de réconciliation. « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc, être en paix avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de honte, on n'a plus peur du jugement, on n'a plus peur même du regard des autres. C'est la fin de toutes ces choses et le début de la vraie vie. On est déjà dans la vie éternelle, en fait, quand on est réconcilié avec Dieu. Donc ça, c'est acquis. Quand on est réconcilié avec Dieu, qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, c'est fait. On n'a plus à s'en inquiéter. Mais il n'empêche qu'il y a une porte, mais il y a aussi un chemin à suivre derrière. Et ce n'est pas exclu que parfois on dévie un peu du chemin, qu'on s'éloigne de Dieu, que certains péchés ou certaines choses nous sapent de nouveau notre paix. Donc la paix, ça se travaille, ça se recherche. Sans oublier que c'est aussi un cadeau de Dieu. C'est pas nous qui pouvons l'avoir par notre propre mérite, c'est un cadeau que Dieu nous fait d'être totalement en paix avec lui. Sans que plus rien ne nous sépare, c'est vraiment, il faut aussi l'accepter comme un cadeau. Qu'est-ce qui va découler de cette paix avec Dieu ? Y a-t-il d'autres personnes avec qui nous devons être en paix ? Il y a d'abord nous-mêmes, être en paix avec soi, s'aimer soi-même. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain, ça vous êtes au courant, on en parle tout le temps. Mais il faut aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. On essaye d'aimer Dieu, ça c'est ok, on essaye d'aimer son prochain, mais est-ce qu'on passe du temps à essayer de s'aimer soi-même, inconditionnellement ? Parce que on s'aime si on a fait assez de sport dans la semaine, donc ça va, je me sens bien. Ou parfois c'est pas forcément l'esthétique, parfois on s'aime quand on a été assez performant au travail, quand on a été productif, qu'on est fier de ce qu'on a accompli, là on a une bonne confiance en soi. Mais ça, c'est conditionnel, ça, c'est pas un amour inconditionnel. C'est pas l'amour que Dieu a envers nous. Alors, aujourd'hui, on sait bien que la santé mentale n'est pas au top dans notre pays. Il y aurait 47% des Français qui présentent des symptômes dépressifs. Le contexte n'est pas du tout favorable. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ? Sur quoi je me base ? La Bible dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Est-ce qu'une créature est merveilleuse quand elle a bien fait les choses ? Quand elle a mis du maquillage ? Quand elle a atteint son poids idéal ? Ou je ne sais pas quel peut être le frein qui fait que vous avez un problème d'amour, mais on n'est pas des créatures merveilleuses à condition que. On est des créatures merveilleuses parce que ce que Dieu a créé est merveilleux. Ce que Dieu a créé en nous, l'extérieur et l'intérieur, est beau et bon. Et même quand on est au fond du trou, Dieu nous aime pareil. Son amour ne change pas, son amour envers nous ne change pas. Donc notre amour ne devrait pas changer non plus. Dieu n'attend pas qu'on le mérite, il nous aime avant. Donc nous aussi, on ne devrait pas attendre de mériter quoi que ce soit, on devrait s'aimer d'abord. Est-ce que les mannequins se trouvent belles et beaux ? Oui, c'est normal, ils sont beaux. Eh ben non, il y a des mannequins qui sont magnifiques, qui ne s'aiment pas. Est-ce que les stars, les célébrités, les personnes qui ont de grands talents, les grands artistes, les grands chanteurs, acteurs de cinéma, est-ce qu'ils s'aiment ? C'est pas du tout garanti. Il y a plein de personnes célèbres qui ne s'aiment pas parce que c'est pas la célébrité qui joue. Est-ce que les personnes riches sont plus heureuses ? Absolument pas. Donc aucune beauté, aucune célébrité, aucune gloire, aucune richesse ne peut nous aider à s'aimer nous-mêmes. Ça ne vient pas de là. Il faut pas rechercher à l'extérieur. Il faut, en fait, ça vient de l'amour de Dieu. Donc c'est l'amour que Dieu nous porte qui va nous aider à nous aimer nous-mêmes. Certains coachs disent que avant de vouloir perdre du poids, par exemple, ou faire une transformation, un travail sur soi, il faut s'aimer d'abord. Pour que le travail de transformation soit une réussite, il ne faut pas attendre de s'aimer parce qu'on a changé, donc après avoir atteint son poids, par exemple, idéal, mais il faut s'aimer d'abord et ça va nous aider à changer ce qui ne convient pas. Si on attend d'avoir changé pour s'aimer, il n'y a absolument rien de garanti parce qu'on trouvera toujours quelque chose qui ne va pas et on attendra toujours d'être encore mieux, encore plus, encore pas assez, encore trop, encore... voilà. Dieu n'attend pas qu'on ait changé pour nous aimer. Avec les addictions, c'est pareil. En se dévalorisant, on retombe dans l'addiction qui nous fait souffrir. Alors que si on apprend à s'aimer tel qu'on est, à avoir confiance en ses capacités, on va dire s'aimer, c'est un vaste mot, hein. Je parle de confiance en soi, d'estime de soi, de tout ça. Si on apprend d'abord à s'aimer, ce sera plus facile de remonter la pente. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que du coup c'est très égoïste, en quoi ça concerne notre sujet d'être prêt à mourir, de s'aimer soi-même, d'être centré sur soi ? Non, c'est pas ça. C'est que s'aimer soi-même, ça va débloquer toutes les autres choses et toutes les autres relations. On sera plus serein face à Dieu, on acceptera mieux l'amour de Dieu pour nous si on s'aime soi-même. Nos relations avec les autres seront plus faciles si on s'aime soi-même. Parce que parfois on peut être blessé par quelqu'un pas parce que la personne nous a causé du tort, mais parce que nous, on l'a mal pris, parce que nous, on a peur d'être abandonné, on a peur du rejet, et du coup, on n'a pas confiance, donc on se fait des films et on prend mal les choses, donc on n'est pas serein, même dans nos relations avec les autres. S'aimer soi-même, ça nous aide aussi à être actif, à porter du fruit pour Dieu. Et s'aimer soi-même, ça rayonne sur les autres. J'y pense en particulier par rapport à notre rôle de parent quand on a des enfants, mais je pense que ça peut aussi s'appliquer au niveau des amis ou de l'entourage proche. J'ai vu une citation qui est parlante. « Quand tu critiques sans cesse ton enfant, il n'arrête pas de t'aimer, il arrête de s'aimer lui-même. » Quand on est parent, on a envie que nos enfants prennent confiance en eux et qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et donc, il faut penser que nos paroles, ce qu'on leur dit, ça va devenir leur petite voix intérieure. Il faut penser aussi que notre exemple va les aider à se construire et à s'aimer eux-mêmes. Donc, s'ils voient leurs parents passer matin, midi et soir leur temps devant le miroir à dire qu'ils ne sont pas bien, que ce n'est pas assez, que c'est trop, que c'est... Voilà. Ils vont penser que le miroir est important dans la vie, alors que non, pas du tout. Donc ça demande de travailler sur soi pour essayer d'inspirer les autres, d'avoir un impact positif sur les autres. En bref, s'aimer soi-même a un impact bien plus grand que juste s'aimer soi-même. Et donc ça va aussi nous aider pour être en paix avec les autres. Vaste sujet, parce que là du coup ça ne nous concerne pas que nous. Faire la paix avec Dieu, faire la paix avec soi, là, on peut se débrouiller tout seul. Mais dès que ça concerne les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Notre part à nous, c'est peut-être de faire le premier pas, de ne pas attendre que l'autre revienne vers nous parce que c'est de sa faute, parce que c'est lui qui a commencé, parce que c'est lui qui doit s'excuser, parce que c'est lui, c'est lui, c'est lui. Heureusement que Jésus n'a pas attendu qu'on lui demande pardon pour nous pardonner, pour faire ce geste à la croix qui nous ouvre la possibilité du pardon. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai pas noté la référence, mais je sais que c'est dans la Bible. Nous savons ce que c'est l'amour. Il nous a aimés le premier. Donc là aussi, dans nos relations avec les autres aussi, il y a l'amour avant. Récemment, je connais quelqu'un qui a perdu son père et il a eu énormément de regrets parce qu'il n'avait pas contacté, il n'avait pas pris le temps de téléphoner depuis longtemps parce qu'il attendait que son père l'appelle et son père attendait que son fils l'appelle et les deux s'attendaient, ils ne se sont pas appelés. Donc ça, c'est très dur du coup comme regret. Donc il y a sûrement quelqu'un à qui vous pensez maintenant, avec qui vous pourriez faire quelque chose pour rétablir une relation. Et si la réconciliation n'est pas possible, et bien là, il y a le pardon. C'est un immense sujet, je ne vais pas pouvoir trop en parler, mais je vais vous recommander une petite série sur YouTube qui s'appelle « Les 6 étapes du pardon ». Donc, c'est 6 vidéos assez courtes, faciles à regarder. « Les 6 étapes du pardon » de Germaine Pommier. C'est un collectif d'artistes chrétiens, Majestar, qui a lancé toute une campagne sur le pardon qui s'appelait « À ceux qui nous ont offensés ». Et donc, ces 6 étapes permettrait, en principe, quand on arrive au bout, je disais, regardez, c'est bien fait, hein, de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés. Elle met Jésus au centre de la démarche, donc c'est bien fait. Elle pose des questions intéressantes et on se rend compte que réfléchir sur soi-même, c'est important, même quand ça concerne un tort que quelqu'un nous a fait. Pardonner, ça c'est la définition qu'elle donne, c'est offrir un cadeau à l'offenseur, celui de le considérer tel qu'il était avant l'offense, sans gêne et sans désir de vengeance. En résumé, c'est Jésus. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Considérer l'offenseur comme il était avant. On connaît la parabole de la remise de dette. Quelqu'un remet une grosse dette à une personne qui, elle, ne prend même pas la peine de remettre la dette, petite dette à l'autre personne. Donc c'est un peu cette idée-là. L'idée là, c'est de s'enlever du poids pour partir plus léger. Et quand on se réconcilie avec quelqu'un, en principe, ça apaise beaucoup de choses, parce que ça, c'est des fardeaux qui peuvent être très lourds dans notre vie. Et il y a aussi le fait que la plupart des gens, en fait, n'ont pas forcément peur de mourir eux-mêmes, mais ont peur de perdre un proche. Donc, c'est dans nos relations que tout se joue. En fin de vie, il paraît qu'il y a 4 choses importantes à dire. Je t'aime, merci, pardon et je te pardonne. et à Dieu. Bon, ça c'est vraiment à la fin de la fin. Mais toutes ces choses-là, disons-les avant, n'attendons pas qu'il soit trop tard. C'est vrai que c'est souvent, je me dis souvent aux enterrements que c'est magnifique et que j'espère que la personne a vraiment entendu toutes ces choses-là avant. Alors je vais vous raconter un épisode de ma série préférée, La petite maison dans la prairie. Donc on a deux vieilles dames, Maddie et Amy. Maddie veut fêter ses 80 ans, elle organise son anniversaire, elle invite sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, mais sa fille ne vient pas, elle écrit « j'ai pas le temps, désolée ». Donc Maddie est très découragée, elle annule sa fête d'anniversaire et elle meurt. Amy est très touchée, ne veut pas que ça se reproduise, elle n'a pas non plus vu ses enfants depuis longtemps. Elle décide de faire croire qu'elle est décédée pour organiser ses funérailles pour que ses enfants, pour qu'elle puisse revoir ses enfants une dernière fois. Et donc elle se justifie parce que ses complices au début ne sont pas du tout motivés à organiser tout ça, mais elle se justifie « j'organise toute cette comédie pour pouvoir réunir mes enfants autour de moi ». Je n'ai jamais réussi à tous les faire venir. Pour mes funérailles, ils viendront. Et ils diront des choses que j'aurais aimé entendre aujourd'hui. Donc là, c'est un cas extrême. C'est aussi une autre époque où on ne pouvait pas se déplacer aussi facilement, ou une fois que les enfants étaient partis dans une autre région, ils ne pouvaient pas forcément revenir aussi facilement. Bref, c'est une autre époque. C'est un cas extrême. Je ne sais même pas si c'est une histoire vraiment vraie, mais ça fait réfléchir. Et en fait, au début de l'épisode, c'est la petite Laura Ingalls qui donne cette idée à la vieille dame en disant « Mais il faudrait faire les funérailles quand on est encore vivant. Comme ça, on pourrait se dire au revoir et se parler. » Bon, c'est très délicat. Je ne sais pas trop quoi dire de plus à ce sujet, mais j'ai peut-être envie de dire « Allons aux anniversaires. » Là, c'est des fêtes. Là, c'est des moments où on peut dire ce qu'on pense des gens. C'est des moments où on peut peut-être aussi dire au revoir. Mon papy aussi, hein, à chaque anniversaire, il nous disait adieu à la fin parce qu'il disait « je ne sais pas si je vais encore aller au prochain anniversaire ». Donc, on était toujours là, mes papys. Oh. Mais il nous disait toujours au revoir, en fait. Mais voilà, il était prêt. Et nous aussi, ça nous a préparés. Donc, être en paix, c'est un travail de tous les jours. Il faut refaire la paix avec Dieu, refaire la paix avec soi, refaire la paix avec les autres, parce que les relations bougent, les gens changent, les circonstances évoluent, donc il faut sans cesse se mettre à jour et rechercher la paix. On pourrait s'arrêter là pour aujourd'hui, et je pense qu'on serait prêt, parce que partir en paix, c'est déjà un beau départ. Mais on va encore aller un peu plus loin. Vivre comme des héritiers. L'image de la couronne, ça vient du verset de 2 Timothée 4,8. La couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite et éternelle, est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Donc, on est héritier. On sait que Dieu nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre. Ça, c'est dans 1 Pierre. Un héritage qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il nous le réserve dans les cieux. Donc on peut dire un peu, voilà, couronne, je vais hériter d'un grand royaume. Et dans cet héritage, voilà, je l'ai mis. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Nous avons reçu un avant-goût de cet héritage. Tout n'est pas seulement à venir. On est sauvés en espérance. Il y a encore beaucoup de choses qui nous font souffrir, mais il y a quelque chose que nous avons déjà, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu comme avant-goût. L'Esprit n'est pas un espoir pour nous, c'est du réel, c'est du vécu, c'est du vrai, c'est du concret. La Bible nous le présente parfois comme un gage ou un acompte de l'héritage encore plus grand qui nous est réservé. Nous avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, selon Romains 8, 23. Donc si tu es né de nouveau, c'est-à-dire né une fois par le sang de tes parents et une deuxième fois par l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit. Ce serait dommage de vivre sans lui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Donc c'est aussi comme si on avait un Stempel, un sceau. Désolée, je n'ai pas vraiment le bon accent. Alors, comment ça se voit? Où est l'esprit dans ma vie? Dans mes choix, dans mes pensées, dans mes relations? Est-ce que j'ai un petit peu oublié l'esprit au fond d'un marque-page de ma Bible? Ou est-ce qu'il est mon compagnon de chaque jour? Est-ce qu'il m'aide à porter ma valise? Je parlais de valise au début. Souvent, pour donner un petit témoignage personnel, l'esprit me fait plus réaliser mes erreurs que me donner des bonnes inspirations. Enfin, ça dépend. Mais il y a aussi cet aspect-là, il convainc de pécher, pas pour nous écrabouiller et nous tirer vers le bas, mais justement pour nous aider à nous améliorer, à faire mieux la prochaine fois. Nous donner des petites alertes pour dire, dans ce cas-là, il aurait fallu être plus doux, être plus de maîtrise de soi, voilà. Il nous fait réaliser nos erreurs. Ce qui me fait réfléchir avec cette idée, cet esprit qu'on a comme avant-goût, c'est que c'est quelque chose qu'on possède et qui va rester. Alors que toutes nos possessions, toutes nos richesses d'ici-bas, on ne va pas les emporter. Donc ça nous aide aussi à prendre du recul, comme disait Isabelle avant, sur les choses qui nous paraissent importantes, qui sont finalement pas si importantes que ça. Dans nos bagages, nous n'emporterons rien. Ce qui restera, ce sera l'Esprit de Dieu et nos belles œuvres qu'on aura accomplies par la foi. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut complètement s'oublier. On a vu qu'il faut se connaître et s'aimer soi-même pour avoir un impact positif. Mais c'est l'accompagnement de l'Esprit qui va tout conduire comme il faut et qui va nous aider à prioriser où sont nos vraies richesses, nos vrais besoins. Donc se dire que tout appartient à Dieu, que tout est une grâce de Dieu, qu'on ne mérite pas forcément tout ce qu'on a. Prendre du recul sur toutes nos richesses terrestres pour être prêt à partir, moi, en tout cas, ça m'aide. C'est un des domaines sur lequel l'esprit peut agir. La question, c'est à la fin, qu'est-ce qui va rester? Et du coup, ça nous aide forcément à faire les bons choix. Et on y pense souvent quand on doit acheter quelque chose d'important et qu'on a voilà, plus cher, moins cher. On y pense, finalement ça ne va pas rester, donc on prend du recul. Donc ça c'est un point, l'esprit comme avant-goût. Et mon dernier point, ce sera la persévérance avant tout. J'aime bien le mot persévérance parce qu'on y met plein de choses, on y met la confiance, on y met l'endurance, la patience, quoi d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, la patience, voilà, c'est ça que je voulais dire, la patience. Vivre comme des héritiers, c'est se savoir en sécurité entre les mains de Dieu. Si on cherche notre sécurité dans ce monde, ça va être très fragile, parce que la santé n'est pas acquise, le climat dégringole, la politique, n'en parlons pas, enfin si, on va justement en parler, on en parle beaucoup, les guerres, on trouve toujours un sujet d'inquiétude, donc on peut trouver une certaine sécurité dans un emploi stable ou dans un groupe d'amis fidèles, des choses comme ça qui tiennent, mais rien ne nous garantit que ça ne pourra pas, qu'on ne pourra pas tout perdre en un claquement de doigts. Donc aujourd'hui, justement, en parlant politique, c'est un jour stratégique, on va élire un président. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse insécurité cette année, parce que quelle que soit l'issue, je ne vais pas du tout me positionner, mais je sais qu'il y a des gens qui paniquent si un devient président et qui paniquent si l'autre devient président. Dans tous les cas, on n'est pas serein. Voilà, après, c'est pas la première fois, hein, mais voilà. Mais en fait, c'est normal. Dieu nous a demandé de prier pour nos autorités et de nous confier en lui. Donc, prier pour nos autorités, mais se confier en Dieu seul, parce que c'est là qu'est notre sécurité. Donc la confiance en Dieu nous permet de vivre plus sereinement dans la perspective de la mort et de tout ce qui peut arriver. Quoi qu'il se passe dans ma vie, et dans notre pays, et dans notre Europe, et dans notre monde, Dieu le sait, Dieu le tient dans ses mains, Dieu le voit, Dieu est au courant en fait, Dieu est souverain sur toutes ces choses. On aimerait qu'il nous évite bien des soucis, mais apprendre la confiance en Dieu et consolider notre confiance en Dieu, ça passe par toutes ces épreuves. Et donc c'est ça la persévérance, c'est supporter les difficultés présentes et garder la foi, ça fait partie de notre quotidien. Même si nous allons hériter d'un grand royaume céleste, il y a cette persévérance. Vivre comme des héritiers, c'est ne jamais désespérer et continuer d'espérer comme Abraham, alors que tout lui interdisait d'espérer. On n'a pas beaucoup lu la Bible ce matin, alors on va lire, c'est Matthieu, je vais lui demander de venir lire, une histoire vraie, c'est pas une parabole, une histoire vraie qui s'est passée dans Marc 9.
Donc c'est Marc 9, versets 17 à 27. Un homme de la foule lui répondit à Jésus. « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort, mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout.
C'est ce verset qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Les gens pensaient que l'enfant était mort, mais Jésus l'a aidé à se lever. Tout est possible à celui qui croit. Croire que Dieu est tout-puissant et bon, c'est ça la confiance en Dieu. Et la persévérance, c'est garder cette confiance coûte que coûte. Que le contexte soit favorable ou non. On ne peut pas compter sur les circonstances. Comme on l'a dit avant, la santé, la politique et toutes ces choses. On peut compter sur Dieu, ça par contre, oui. Et en fait, donc je dis que la vie est courte, qu'il faut se tenir prêt, il y a une certaine urgence, mais la vie est aussi longue. Ça dépend pour qui, hein, mais... Donc on a quand même besoin de persévérance. Là, je pense aux parents, des fois, on a besoin de persévérance pour arriver au bout de la journée. Pour tenir jusqu'au soir et jusqu'à ce que les enfants soient couchés, il nous faut énormément de persévérance, de patience, de maîtrise de soi, enfin bref, de l'Esprit de Dieu, absolument. Donc quand la journée, quand la semaine, quand la vie est interminable, surtout persévérons. Hébreux 12, 1, « Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et nous enlace si facilement. » Et courons avec persévérance vers le but proposé. Je n'ai pas parlé spécialement de sanctification, mais ça fait partie du chemin, hein, quand on passe par la porte étroite et qu'on est sur le chemin. Notre chemin avec Dieu, c'est de devenir saint comme lui. Et quand Jésus reviendra, nous serons irréprochables. Voilà, la vie avant la mort. Est-ce que j'ai mis un verset ? Oui. J'aime bien ce verset parce qu'il parle de séjour sur terre. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Le contexte de ce passage, c'est quand il nous est rappelé d'être saint, car Dieu est saint, de ne pas prendre à la légère le sang précieux de Christ qui nous a rachetés. Et c'est aussi, il y a aussi un verset un peu autour de celui-là qui dit que l'herbe sèche et la fleur fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ça nous remet un peu à notre place où on est de passage sur cette terre. Et pourtant, on y trouve un certain confort et on n'a pas envie de partir. C'est inconfortable, c'est vrai, de penser à la mort, de se préparer à la mort, et c'est même tabou, on n'ose pas trop en parler. J'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux récemment, et en fait, beaucoup de personnes ont exprimé qu'elles n'étaient pas tout à fait prêtes parce qu'elles avaient encore envie de faire des choses, de vivre des choses, avec leur famille par exemple, ou j'ai pas fini, je pense que je peux être encore utile pour Dieu, donc aussi c'est peut-être aussi des fois une excuse, et Dieu doit me garder parce que je vais être utile pour lui, mais est-ce qu'on serait pas plutôt trop attaché à nos propres envies ? Notre vie éternelle a beaucoup d'importance. Comment revoir nos priorités en fonction de cette perspective à long terme ? Cette vie est précieuse pour ça. Elle est importante pour nous préparer à rencontrer Jésus, mais est-ce vraiment ce que l'on souhaite ? Matthieu nous a dit récemment dans une prédication qu'on parlait trop peu et qu'on priait trop peu pour le retour de Jésus. Et je pense que je le rejoins là-dessus parce que c'est un thème très présent dans le Nouveau Testament. Mais parfois, je me surprends à vivre comme si ça n'existait pas du tout. Alors, un petit point pour les non-chrétiens, s'il y en a parmi nous. Il n'y a pas de bon moment pour faire le choix, mais il y a urgence quand même. Je comprends qu'on puisse vouloir pas se prendre la tête, parce que c'est une grande décision, c'est un sujet compliqué. Mais être dans la famille de Dieu, ça n'a pas de prix. Et le plus tôt, c'est quand même le mieux. Ça compte aussi pour la vie présente, parce que tous ceux qui sont ici vous témoigneront qu'on ne peut pas regretter d'avoir Jésus à nos côtés et de faire équipe avec lui. Alors, je pensais pouvoir affirmer « jamais personne n'a regretté », etc., mais c'est faux. J'ai aussi vu des témoignages d'une personne récemment qui explique qu'elle était chrétienne et qu'elle est devenue athée. Donc, je ne peux pas vous dire « jamais personne », mais la plupart des gens vivent leur meilleure vie quand ils choisissent d'avoir Jésus comme leur sauveur. Bon, en tout cas, moi, je peux témoigner pour moi que je ne regretterai jamais. Si tu es déjà chrétien et que tu considères que c'est bon, tu as ton passe-paradis et tu n'as pas trop envie de te prendre la tête, il y a quand même une urgence aussi, parce qu'il y a un chemin. Dieu t'aime et toi, tu ne t'aimes pas. Tu te dévalorises toute la journée, t'es pas fier de toi. Eh bien, travaille là-dessus. Dieu t'a donné un talent ou une capacité particulière et tu ne l'exploites pas, travaille dessus. Alors, es-tu prêt ? On va chanter j'avais envie de qu'on fasse un chant, peut-être vous pouvez revenir les musiciens, parce qu'on a parlé de la vie avant la mort, du fait que Dieu nous aime avant tout, qu'il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer efficacement les autres, que l'Esprit doit nous remplir avant qu'on puisse agir pour le royaume de Dieu. Et il y a ce chant qui dit « bien avant que tu aies créé, bien avant ». Et c'est un chant aussi où on se rappelle qu'on est enfant de Dieu et que Dieu est notre Père. Je vais peut-être juste prier et puis ensuite on va chanter ce chant. Seigneur, tu nous demandes de nous tenir prêts. On ne sait pas toujours bien qu'est-ce que ça veut dire, mais je te demande de nous aider, tous ici présents, à faire le tri, à se mettre en règle, à régler toutes les choses qui doivent être réglées pour nous donner cette paix que tu nous as promis, cette paix qui surpasse tout. Permets qu'on puisse avancer sereinement avec toi, sans culpabilité. Permet que par ta puissance, tu puisses exaucer des prières faites depuis longtemps, des relations peut-être qui coincent depuis longtemps, que dans notre Église, ton esprit débloque aussi des choses, que tout ce travail qu'on va faire sur nous, ça nous unisse en toi et ça nous permette que ça fasse venir ton royaume plus vite. Aide-nous à l'attendre vraiment. Et dans cette attente, à vivre exactement comme tu le souhaites, à vivre les choses que tu souhaites et à avoir l'impact que tu souhaites qu'on ait sur cette terre. Amen.